Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Monique est arrivée en Namibie il y a plus de 28 ans, après avoir fait un voyage au long cours sur la route de la soie. Un voyage en entraîne un autre. Et c'est ici, sur ces terres sauvages et préservées, qu'elle a fait le choix de rester et de s'impliquer dans l'ONG Perinawa. J'ai rencontré Monique et Isabelle dans un campsite en Namibie dans la région du Kaokoland, en terre Imba. Toutes les deux voyagent dans un 4x4 avec une tente posée sur le toit. Dans cette émission, on regarde ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment de donner la parole à des gens qui font le choix du voyage, qui font le choix de l'expatriation, pour simplement partager nos expériences de vie, parce qu'on se rend compte que souvent, à l'étranger, on vit une vie plus intense que celle qu'on peut avoir en France, ou en tout cas, c'est vraiment cette envie de partager nos expériences de vie. Donc Monique, 28 ans en Namibie, c'est pas rien. Donc on va parler avec toi, on va découvrir un petit peu ton itinéraire, ton parcours, ce qui t'a amené ici, et ce qui a fait que tu y restes aussi longtemps. Et on parlera ensuite de votre voyage à toutes les deux, parce que là je vous retrouve à côté d'un Living Museum qui est là pour un peu représenter la culture Imba. On est dans ce qu'on appelle un campsite et on est tous en train de faire du self-drive. Donc on se déplace en Namibie avec un gros 4x4 sur lequel est posée une tente, et c'est une manière très, très courue ici de voyager de cette manière-là. Donc voilà, on va parler un peu de Namibie, on va parler de votre voyage, mais aussi Monique, de cette histoire de vie qui t'a amené ici en Namibie.
C'est vrai qu'il y a toujours une origine des choses. On vivait une vie normale en France, si je puis dire. Bon. Et puis, moi j'avais 42 ans, mon compagnon avait 50 ans à l'époque. On a décidé de faire une année de césure aussi. Et donc on est parti une année en camping-car jusqu'en Inde, de France. Et voilà, et cette expérience a été tellement forte pour nous que quand on est rentré en France, l'acclimatation était impossible. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse une expérience de vie à l'étranger, mais on ne savait pas comment, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux qu'il y a maintenant. C'était il y a 30 ans. Et donc, donc on cherchait où on pourrait aller avec nos qualifications, avec notre expérience, etc. Et puis ça a été la Namibie. C'était un pur hasard. On n'a pas choisi la Namibie, c'est la Namibie qui nous a choisi, si j'ose dire, parce qu'effectivement, on a été complètement subjugués par ce pays et on avait envie d'y rester. J'ai fait mon expérience, c'est moi qui avais le travail, mon compagnon n'avait pas de travail, et finalement il a réussi à trouver un travail de guide touristique, puisque la clientèle française commençait à se développer. On sait très bien que les Français ne parlant pas très bien anglais ou très bien une autre langue, il voulait un guide français. Nous, on connaissait bien la Namibie, lui il avait un bon contact avec les gens, et donc il était embauché par un tour opérateur français qui venait juste de s'installer en Namibie. Donc il a été tour guide.
Tu dis, à votre retour en France, après une année sur les routes en direction de l'Inde, le retour n'était pas évident. Et donc vous avez choisi de vous expatrier, et la Namibie est arrivée donc un peu comme un peu un hasard. Mais pourquoi, qu'est-ce qui était difficile dans ce retour en France? Pourquoi difficile de se réadapter après une année de voyage en camping-car?
Parce qu'on avait vécu tellement de choses, on avait découvert tellement d'autres choses, d'autres gens, etc. Et quand on est rentré, on a eu l'impression, avec nos amis, notre famille, qu'on les avait quittés la veille, que les conversations étaient les mêmes qu'un an avant. Et nous, on avait plus du tout cet état d'esprit, quoi. On était transformés et changés. Et on s'est dit, on peut pas continuer à vivre de manière, c'est pas péjoratif ce que je dis, étriquée. Voilà. On avait envie de faire une expérience plus intense, plus large, plus... Voilà. Donc...
Et donc, vous arrivez en Namibie il y a 28 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on y reste aussi longtemps?
Ce que vous allez vivre en Namibie, les paysages, les gens. La Namibie, c'est un pays tellement attractif au niveau de la nature. C'est une nature comme au premier matin du monde. On a l'impression d'être dans une nature que personne n'a, qu'aucun humain n'a réussi à dompter. En fait, la nature a une force qu'on ressent au plus profond de soi. Cet univers minéral, etc. Il y a quelque chose de divin quelque part. Et c'est ce qui nous a fait rester en Namibie. Hein.
Vous êtes arrivé en 92. La Namibie a une histoire un peu particulière. Je crois qu'elle est indépendante seulement depuis 1990. Donc vous êtes arrivé très peu de temps après. Et j'imagine qu'à cette époque-là, le tourisme n'était pas du tout développé en Namibie.
Non. Effectivement, quand on est entré en Namibie, on manquait pas de tout. Il y avait le basique, etc. Bon, il y avait cette histoire blanc-noir aussi qui nous a assez secoués. Parce qu'on a atterri, entre guillemets, à Otjiwarongo, qui est quand même un pays de colons allemands et de population africaneur, blanche. Et on a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi, dans la communication entre les deux communautés. Et nous, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à ça. On ne s'est jamais intégrés, en fait, ni dans la communauté blanche, ni dans la communauté noire. Mais bon, on était des solitaires.
Tu peux revenir un petit peu sur l'histoire de la Namibie pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a entendu parler de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, mais la Namibie, son histoire est quasiment inconnue pour nous en France.
Bon, la Namibie était une province sud-africaine, en fait, il y avait un mandat sud-africain sur la Namibie, donc il y a eu un peu d'apartheid aussi, il y a eu le plan Odendaal qui a divisé les communautés aussi, les homelands de chaque communauté. Et c'est vrai que cette division des populations fait que ils sont toujours restés étrangers les uns avec les autres, y compris la communauté blanche. Il y avait les Allemands et les Afrikaners qui se mélangeaient pas. Après, dans les ethnies namibiennes, c'est pareil, ils se mélangeaient pas parce qu'ils avaient été séparés aussi. Donc tout ça était très compliqué. Et c'est une société qu'on comprenait pas. Mais on avait envie de partager aussi avec ces gens-là. Donc on a essayé de fréquenter toute communauté. Et c'est vrai que c'est compliqué.
Même aujourd'hui.
Et quand tu parles de communauté, tu parles de communauté blanche, mais aussi chez les Noirs, il y a plusieurs peuples ici qui habitent en Namibie. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu quelle est l'entente entre les Himba qui sont juste là à côté, mais on parle aussi de Damara, de Herero, de Khoisan, donc un pays qui est culturellement très riche et très dense.
Oui, mais bon, il y a une ethnie majoritaire qui a pris le pouvoir, enfin qui a le pouvoir, donc les Ovambo. Et effectivement, il y a eu des mélanges de populations entre les différentes ethnies, mais ils sont restés quand même très, très, parce qu'on les a mis là, hein, aussi. Et donc, ils ont été très concentrés et ils se mélangent pas vraiment. Ils s'apprécient, oui ou non, ça dépend de l'ouverture d'esprit de chacun. Ils sont très. On a l'impression que c'est pas une nation, la Namibie, en fait. Chacun a sa propre communauté, garde ses propres valeurs et ses propres. Ils se critiquent les uns les autres. C'est compliqué. Mais nous qui arrivons de l'extérieur, on a un privilège, c'est qu'on peut frapper à la porte de chaque communauté, quoi. Ils savent qu'on n'est pas du pays. Ils savent que on n'a pas été des blancs qui les ont spoliés lors de l'apartheid ou lors de la colonisation allemande. Ils savent tout ça. Ils voient en nous des gens différents et la communication est peut-être plus facile. Mais c'est pas une communication parce qu'il y a le barrage de la langue aussi. Hein. Tout le monde ne parle pas anglais ici. Ça a été quand même une langue qui a été imposée au moment de l'indépendance. Et donc c'est compliqué aussi de communiquer quand on va dans un village du nord, que ce soit en Ovamboland, si on n'a pas un guide qui parle la langue, on n'arrive pas à communiquer. Et le but c'est quand même de communiquer, c'est pas d'être voyeuriste et d'essayer de comment ils vivent, quelles sont leurs traditions. Il faut avoir quand même un vecteur de communication et c'est souvent ce genre de jeunes qui vraiment ont envie de transmettre la culture de leur ethnie aux visiteurs.
Il n'y a pas une volonté du gouvernement ou dans l'éducation ici que chaque enfant puisse parler l'anglais ? Tout le monde n'est pas scolarisé ?
Oui, tout le monde n'est pas scolarisé, non. Ça, c'est un fait. C'est un fait aussi que les instituteurs ne sont pas formés, vraiment. Ce n'est pas leur langue maternelle, hein. Donc c'est complètement différent pour eux, enfin difficile pour eux de communiquer en anglais. Ils possèdent peut-être bien une matière, géographie, histoire, mais ils ne savent pas la transmettre dans cette langue-là. Donc au début, l'enseignement était en anglais. Je parle dans les premières années de primaire. L'enseignement était en anglais et ils ont fait machine arrière il y a je ne sais pas combien de temps. 5 ans, 6 ans, ils ont décidé que jusqu'au cours élémentaire, je ne sais plus, le grade 1, 2, les deux premiers grades, seraient enseignés en langue locale. Parce que tout simplement parce que les professeurs réussissent mieux à transmettre dans leur langue locale, quoi. Donc, l'anglais est une matière, et après l'anglais devient vecteur de d'enseignement.
Mais donc ici en Namibie, tous les enfants ne vont pas forcément à l'école. La scolarité n'est pas, ou elle est obligatoire, ou comment ça se passe? Est-ce que tu peux me donner un petit peu des chiffres en termes d'éducation?
Des chiffres, non, mais je sais que tous les enfants ne vont pas à l'école, puisqu'il y a des tas de plus en plus d'ailleurs, hein, ce qui est très curieux. Il n'y avait pas ça il y a 30 ans, et maintenant il y a de plus en plus d'enfants des rues qui vont pas à l'école, quoi. Qui vont pas à l'école, et nous, on est confrontés à ce genre d'enfants qui ne vont pas à l'école. Alors, pour quelle raison? Parce que l'école n'est pas... Jusqu'à 4 ans, l'école n'était pas gratuite. Donc, on payait des school fees, bon, des droits de... Voilà. Donc, les familles n'avaient pas l'argent, donc ils n'étaient pas acceptés à l'école. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les uniformes, il faut qu'ils achètent les uniformes, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, tous les enfants sont en uniforme. C'est le problème de l'argent, donc les gens qui n'ont pas d'argent n'envoient pas leurs enfants à l'école.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je reviens un peu sur l'histoire de la Namibie. Donc en 90, elle trouve son indépendance. Tu arrives en 92. Comment ça se passe à ce moment-là? À quel moment les touristes commencent à arriver dans le pays? Est-ce que tu peux nous parler de cette évolution sur les 28 années de ta présence ici?
Eh bien, moi, je crois que le tourisme était sud-africain, était allemand. Et après, ça s'est ouvert aux autres nationalités avec la prolifération des tours opérateurs, des guides qui parlaient la langue. Donc, on a vu arriver des Français, mais relativement... je ne sais pas, c'était dans les années 95, 96, 97. Après, des Italiens, des Espagnols, enfin, etc. Les Français, effectivement, beaucoup en voyage organisé d'abord, avec des petits minibus. Des gens qui étaient intéressés par la Namibie parce qu'ils connaissaient. Ils étaient géologues, ils étaient amoureux des oiseaux, etc. Ils venaient découvrir la Namibie quasiment professionnellement. Et puis après, il y a eu le tourisme. On ne peut pas dire qu'il y a eu un tourisme de masse en Namibie, mais on voit des bus de 50 personnes à Etosha. Donc le tourisme a beaucoup évolué. Et bien sûr, je crois qu'il y a des Français, des Italiens, des Espagnols, mais ils ont tous leur guide francophone ou parlant italien ou parlant espagnol, parce qu'il y a toujours des difficultés de communication avec... depuis quelques années, on voit ce qu'on appelle des self-drive, c'est-à-dire des gens, même des familles, avec justement location de voiture, avec tente sur le toit, et on campe, et voilà. Tu dis, on peut venir en Namibie individuellement, en famille, même en famille, avec des enfants, il n'y a pas de danger, les routes sont belles, les gens sont gentils, il n'y a pas de violence, on ne risque pas de se faire attaquer, il y a des animaux, enfin, je veux dire, c'est l'Éden. La Namibie, c'est encore l'Éden.
C'est vrai ce que tu dis, en tant que voyageur, on se sent en sécurité, on se sent émerveillé par la diversité des paysages, mais aussi la diversité culturelle qu'on observe justement aujourd'hui à Opuo. Donc Opuo qui est une ville dans le nord de la Namibie, pas trop loin de l'Angola, et c'est un délice de s'y promener.
Tout à fait, il y a les paysages et il y a les gens aussi. Il y a les ethnies qui sont de plus en plus habituées aux touristes. Bon, ça crée aussi des rapports qui ne sont pas toujours très sains. Des rapports d'argent, des rapports de mendicité qui, encore une fois, qu'il n'y avait pas il y a 30 ans, quoi. Mais il y a tellement de richesses et puis on trouve toujours des individus qui sont ouverts et qui sont curieux et qui ont envie de savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, comment c'est chez vous, etc. Donc il y a ça, c'est vrai qu'il y a Opuo, il y a le Bushmanland. Moi, ma région de cœur, c'est quand même le Bushmanland parce que j'adore les Bushman, je sais pas pourquoi. C'est un peuple qui me fait craquer. Ils sont tellement authentiques, simples, souriants et pas mercantiles. Après, il y a moi j'aime bien me balader dans les villages en Ovamboland. J'ai des amis au Vambo et j'adore aller dans les villages. Il y a pas d'eau, il y a pas d'électricité, mais je sais pas, les gens sont accueillants.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Monique, tu es là depuis 28 ans après avoir fait un voyage en caravane de la France jusqu'à l'Inde. La Namibie, tu disais, c'est un peu à hasard, mais tu es quand même restée aussi longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on reste là? C'est vraiment cette notion de paysage ou c'est le métier? Pourquoi tu as choisi de ne pas continuer la route, peut-être vers l'Afrique du Sud ou peut-être même sur un autre continent?
Il m'est arrivé quand même un événement dramatique, c'est que j'ai perdu mon compagnon. Donc je me suis retrouvée toute seule. Et voilà, donc je veux dire que nous, on avait découvert l'Amérique du Sud, on voulait aller voyager en Amérique du Sud, enfin, on voulait faire plein de choses. Et puis tous ces projets-là se sont complètement cassés en morceaux. Et voilà, et pour moi, c'était mon deuxième pays. Mon pays d'adoption et mon deuxième pays. Je ne voulais pas rentrer en France, ça c'est clair, et je ne vais toujours pas rentrer en France. Mais voilà. Maintenant, j'ai 71 ans et je pense que je ne sais pas si je finirai ma vie en Namibie. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être une opportunité fera que j'ai envie d'aller ailleurs. Mais voilà, je me suis retrouvée seule et avec une partie de moi-même qui était partie quelque part. Donc. Et puis, je me suis investie donc, dans la création d'une école maternelle que j'ai gérée pendant 10 ans. Et maintenant, y a une bibliothèque. Et puis un nouveau projet de centre culturel. Et voilà, je suis investie dans le pays auprès de la population et j'ai envie de continuer là-dedans.
Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cet investissement?
Oui, alors en fait, l'opportunité était la rencontre d'une association française qui s'appelait Pirinawa, une femme française qui a vécu une année en Namibie avant l'indépendance, qui voulait s'y installer, mais malheureusement, elle n'a pas trouvé de poste de travail. Et donc, elle est retournée en France, mais la Namibie lui a toujours trotté dans la tête. Et elle a créé une association qui s'appelle Pirinawa, qui veut dire ça, tout va bien, en Imba d'ailleurs. Héro aussi. Et donc voilà, c'est la rencontre avec cette association et voilà, ils ont dit, un relais français en Namibie, c'est extraordinaire, voilà, eux, ils voulaient faire quelque chose. Donc, c'est cette rencontre qui a fait que, voilà, on a dit, on va créer une école, parce que c'est un groupe, enfin, une association qui regroupe des instits, essentiellement. Et voilà, une école, l'école, c'était tout de suite l'école. Donc, bon, moi, j'ai dit, j'ai pas trop de problèmes, mais je suis pas enseignante moi-même. Donc, voilà. Donc, avec l'aide de volontaires qui sont venus, etc., on a créé cette école. Moi, ayant la logistique sur place et la gestion sur place, et eux m'envoyant de l'argent pour faire tourner l'école. Voilà. Donc après, il y a tous les touristes, tous les tour opérateurs francophones que j'ai pu trouver en disant à envoyer les touristes pour visiter cette école. Donc ils apportaient des dons, etc., ce qui nous a permis de gérer cette école pendant 10 ans.
Monique, Isabelle, on vous rencontre toutes les deux dans ce camping, ce campsite, pas loin de ce Living Museum, donc un village Imba qui est là pour présenter sa culture. Qu'est-ce que vous faites ici toutes les deux ? Racontez-moi un peu cette aventure, cette histoire, pourquoi vous vous retrouvez là ce soir à voyager en self-drive ? Donc tu disais...
J'ai une très vieille voiture, une voiture qui a 30 ans. Qui nous a causé quelques problèmes d'ailleurs au début de notre trip, mais bon, c'est pas grave, elle marche et voilà. Et j'ai, oui, c'est un Land Cruiser, oui, c'est un modèle solide, mais n'empêche qu'elle a 30 ans quand même. Mais voilà, donc chaque fois que je reçois des visiteurs, même les volontaires du service civique, ben, je les emmène dans le deep of Namibia. Et là, on était récemment on a fait le circuit de l'Oanib River. On était donc dans l'Oanib River. Et bon, on s'est ensablé deux fois. Enfin, bon, on a eu des aventures. Et c'est ça aussi. C'est de se trouver confronté à des situations et on se connaît mieux soi-même. Hein. Est-ce qu'on est capable d'aller comme ça dans le bush ? Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. On ne craint pas ni pour notre santé, ni pour notre rien. On a notre voiture pleine d'eau et pleine de nourriture. Et si on reste 10 jours au même endroit stocké parce qu'on ne voit personne, eh ben, on ne va pas mourir de faim et de soif, quoi.
Mais il y a des lions dans la Oanib River, non ?
Oui, bah oui, mais... Et des hyènes et des éléphants. Mais c'est ça qui est fantastique, quoi, aussi. Se retrouver au milieu de cette faune...
C'est ça qui est excitant, je t'entends dire, Isabelle, là-bas. Je veux bien que tu prennes la parole et que tu nous parles un petit peu de cette intensité qu'on peut peut-être vivre dans le voyage ou en faisant ce genre de trip. Parce que là, il faut bien se représenter, on est dans un 4x4, donc on est autonome, mais on roule dans le lit d'une rivière sur de la piste. Tu dis que vous êtes embourbé à plusieurs reprises. Parle-moi un peu de ça.
Ah bah oui, là... Alors, c'est vrai que récemment, là, il y a deux jours, on avait donc descendu l'Oanib River. On voulait passer la nuit dans un campsite autorisé. Et puis, on a décidé d'aller chercher un peu de bois pour notre feu. Donc, c'était un peu loin. On a quand même pris la voiture. Il y avait quand même, je sais pas, 500, peut-être même un kilomètre, hein, au moins. Et en fait, en se garant, enfin en se posant, et ben, on s'est pris un trou dans le sable et tout l'arrière de la voiture s'est enfoncé. La nuit arrivait, donc on a dit bon, ben on va rester là, quoi, en plein dans le lit de la rivière, ce qui est pas autorisé, mais on pouvait pas faire autrement, hein, pas le choix. Donc moi j'avais ma tente de sol. Monique heureusement avait pris une petite tente supplémentaire. Heureusement, on a vite monté les tentes, on a fait un grand feu, parce que déjà les hyènes rôdaient, donc on a fait un grand feu, on était un peu contrariés quand même, donc on n'a pas mangé, on a juste regardé le feu et les flammes en alimentant le feu, et puis à un moment donné on s'est couché, et puis c'est vrai que le lendemain il faisait beau, pas trop chaud, donc on s'est armé toutes nos forces à creuser, à mettre des branchages, et puis au bout de 2 heures, on a réussi à sortir le Land Cruiser de son trou. On était vraiment très fiers de nous, d'ailleurs. Et puis, on a repris notre voyage, et on s'est encore embourbé 2 fois. Là, c'était moins drôle, parce qu'il faisait très chaud, et puis on n'en voyait plus la fin, quoi. D'autant plus que un lit de rivière en Namibie, c'est pas une piste à suivre, c'est des tas de traces que l'on suit sans savoir si c'est vraiment les bonnes, en fait. Donc on a fait quelques allers-retours, hein. En suivant une trace, on se retrouvait devant un énorme trou infranchissable, donc demi-tour, et puis on a mis beaucoup de temps, je sais pas, plusieurs heures, je crois 5 ou 6 heures à faire 50 km. Mais c'était excitant malgré tout, même si on croisait les girafes, on croisait des springboks, des steambox aussi. Ouais, c'était excitant, mais on a eu quand même beaucoup de chance parce qu'à un moment donné, on s'est encore ensablé. Et là, on avait vraiment plus de force. On était vraiment au bout. Et une voiture est arrivée et nous a aidés à sortir à nouveau. Et on est reparti. Et cette fois-ci, ça s'est bien passé jusqu'à la sortie de la rivière. Voilà.
J'ai l'impression que parfois, dans le voyage, il y a une forme de magie qui opère. Tu disais là, et hop, une voiture est arrivée.
Oui. Ah ben, moi, depuis le temps que je voyage en Namibie et j'aime bien voyager dans les pistes reculées, etc., il y a toujours, il y a quelque chose de providentiel. On a l'impression qu'on risque rien. Il y aura toujours quelqu'un qui va passer, qui va vous aider, qui voilà. On a une espèce de sécurité, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, une nature hostile, des gens très éparpillés partout, mais ça ne fait rien. Ça se passe toujours bien. Pour nous, et puis bon, ça fait longtemps qu'on voyage. Isabelle vient tous les ans, donc on fait un petit tour tous les ans. Et bien sûr que ça ne se passe pas toujours comme il faut, surtout avec un vieux véhicule qui n'est pas toujours bien préparé. Mais ça se passe toujours bien parce qu'il y a toujours, quelqu'un qui arrive là, sortant de nulle part, et qui est là pour vous aider.
Ah oui, je vais à nouveau raconter une mini-aventure, encore avec Monique, bien sûr. On était dans le tout au nord, pas dans la bande de Caprivi, entre Rundu et
Divundu.
Donc on était au bord du Kavango, et puis, le pot d'échappement il s'est dessoudé. Donc, on a réussi à arriver sur Rundu et à trouver un coiffeur. Un coiffeur qui faisait également soudeur de pots d'échappement. Très gentil. Bon, il n'avait pas d'électricité, donc il a pris le courant sur notre batterie. Il a mis ses lunettes de ski et il s'est mis... je sais pas où il avait trouvé ses lunettes de ski, hein, il n'y a pas de neige en Namibie. Et il s'est mis sous le 4x4, mais très gentiment, il nous a quand même offert deux chaises, des mangues, et on a attendu, il a fait son travail, et on a continué notre aventure encore pendant une semaine avec le pot d'échappement réparé par le coiffeur. Voilà.
Tu parles de providence, une forme de plan divin où tout se met en œuvre pour pouvoir continuer l'aventure, continuer la route.
Moi, je suis comme ça, je suis positive, j'ai pas de crainte, je crois que de toute façon, rien ne peut m'arriver, que j'ai une bonne étoile. C'est aussi une personnalité, c'est une croyance, je sais pas. Et c'est vrai que même pendant notre voyage d'un an en camping-car, il nous est rien arrivé, quoi. Et on a traversé des pays, on a traversé l'Iran, on a traversé le Pakistan, on a traversé des pays où les gens nous disaient, vous êtes complètement fous d'aller là. Moi, je suis persuadée qu'il ne nous arriverait rien et il ne nous est rien arrivé.
Pensée positive, ouais. En tout cas la pensée créatrice.
Ouais, mais c'est ça. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Et bon, voilà. Et je pense, pourtant, il nous est arrivé des trucs, mais je me dis, c'est pas grave parce que ça va se résoudre. Ça va se résoudre. C'est pas possible autrement. Voilà. Et ça se résout tout le temps.
Oui.
Donc en fait, le secret, ce serait ne pas avoir peur et y aller.
C'est ça, exactement. Ne pas avoir peur parce que, moi, j'ai mes enfants en France, j'en ai 5, qui me voient partir comme ça régulièrement en Afrique. Ils sont déjà venus, mais bon, ils n'ont pas vécu toutes les aventures que j'ai vécues. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand même, ils ont des appréhensions, même au niveau de la santé. Oui, mais maman, là-bas, tu peux attraper des maladies, est-ce que tu auras l'eau et potable? Mais en fait, non, ici, tout est safe, il n'y a pas de problèmes particuliers. On a effectivement des bonnes pistes, effectivement des gens qui arrivent, des gens providentiels qui arrivent au moment où on a quelques soucis. C'est jamais très très grave, hein. Moi, je parle pas de soucis de santé, je parle de soucis de voiture, qui est notre seul moyen de transport, puisque c'est notre maison, c'est tout à la fois. Mais c'est vrai que vu de loin, ça peut faire peur, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Même si là, il y a 4 jours, on dormait dans la concession de Pamvag, dans cet univers minéral bouillant, et qu'on entendait des lions au loin, je crois, et je sais plus, et des hyènes aussi. Oui, il y avait les hyènes. Moi, personnellement, j'ai adoré m'endormir au bruit des grognements de lions ou d'autres choses, parce qu'il y a aussi des choses qui bougent, mais bon, franchement, c'est un peu d'adrénaline, mais c'est positif. Moi, je n'ai absolument pas peur. Et on est deux femmes, quoi.
Et ça permet peut-être aussi de se sentir vivant. Tu parles d'adrénaline, mais quand on est dans sa tente, parce que là, dans une toile de tente avec des hyènes ou des lions qui rôdent autour.
C'est vrai que ça donne cette impression aussi de force et de confiance en soi et même de un peu de fierté. Mais c'est bon aussi de se sentir fier. Malgré tout, là, quand on s'est ensablé et qu'on a dû passer la nuit dans les rivières, on a rangé bien soigneusement nos oranges, nos pamplemousses, nos citrons au fond du frigo pour être sûr qu'aucun éléphant, qui sont toujours attirés par ce genre de fruits, ne vienne. On avait quand même conscience du danger, hein. On n'est pas non plus inconsciente à ce point-là, mais il fallait... On n'avait pas le choix, mais ça ne servait à rien non plus d'avoir peur, puisque la preuve, tout s'est bien passé. Donc oui, c'est vrai, on se sent vraiment vivant. Moi, je ne pense pas qu'on vienne en Namibie par hasard quand même. Hein. C'est un concept, la Namibie. C'est quand même un pays qui est immense, avec seulement 2,4 millions d'habitants. Je crois que c'est le deuxième pays le moins peuplé au monde, après la Mongolie. Donc, les grands espaces, effectivement, l'horizon est très loin. Et puis, il y a aussi cette proximité assez facile avec les animaux, ces grands animaux sauvages comme l'éléphant, le rhino, tous ces animaux qu'on voit à la télé dans les reportages, ben là on peut les approcher, les sentir. Bien sûr, pas les approcher à 5 mètres, même si c'est 50 mètres, c'est énorme. Enfin, et ça, c'est quelque chose qui fait vibrer cette facilité d'approcher des animaux sauvages, pas forcément derrière des clôtures justement. On est confronté, on est dans leur espace. Bien sûr, en principe, on est dans une voiture, mais il arrive de les rencontrer même quand on est à pied. Avec Monique, ça nous arrivait de croiser des mambas noirs. Et bon, ils avaient aussi peur que nous, hein, donc on ne les a pas croisés très longtemps. Mais c'est des choses que l'on peut vivre qu'en Namibie, franchement. J'ai aussi été en Afrique du Sud. C'est un pays magnifique également, avec d'autres climats et d'autres paysages. Mais c'est en Namibie où on ressent ça vraiment vibrer, hein, cette facilité de rencontrer l'animal, la faune, la flore, et d'être seul, confronté à tout ça, comme si quelque part, autrefois, j'y étais déjà. Cette espèce d'idée que je connais, mais non, mais si, peut-être.
Isabelle, Monique, merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.